Le masque sans la plume.
J'ai été voir Asteroid City de Wes Anderson au cinéma. Ça raconte l'histoire d'une pièce de théâtre. On suit un mec qui raconte la création d'un metteur en scène, enfin c'est un peu méta. Ça raconte une pièce de théâtre qui se passe donc dans le désert. Et donc on se retrouve dans une ville qui n'existe pas vraiment, avec un café, un garage, un motel avec des petits bungalows. Et la ville est connue parce qu'en fait il y a eu une météorite et donc il y a un cratère, voilà. On va suivre une colo de petits jeunes génies qui viennent faire un stage, en fait, pour observer la météorite et le cratère. Et il va se passer quelque chose de fou. Spoiler, non, c'est pas super fou. Les gens qu'on suit, c'est les quatre petits gamins génies. Ils font des trucs un peu lunaires, comme une sorte de jeu. Ils citent des trucs méga connus et ils s'arrêtent jamais. On suit trois petites gamines aussi qui se prennent pour des sorcières, des vampires. Elles sont un peu rigolotes et elles veulent enterrer les cendres de leur mère dans le désert. Dans un tupperware, franchement, ça c'est un peu drôle. On suit aussi du coup leur père, à elle, qui a perdu sa mère. Enfin, qui a perdu sa mère, pas sa mère à lui, enfin sa femme, la mère des filles. Waouh, je m'embrouille moi-même. Et on le suit, qui est en train d'essayer de comprendre ce qui lui arrive, mais pff, en face de son bungalow, il y a, comment elle s'appelle ? Scarlett Johansson, qui est rousse, qui est blonde, je sais plus, qui est très belle, en tout cas. On le suit échanger longuement avec elle à la fenêtre de leur salle de bain. Enfin, franchement, moi, je trouve que ça raconte pas grand-chose. Enfin, je vais me faire tuer si je disais ça, mais c'est un peu le défaut du film. C'est super beau, tout le monde est beau, tous les plans sont beaux, tout est cadré, tout est graphique, mais voilà quoi. Enfin si, ça raconte en filigrane histoire sur le deuil et sur... enfin bref. Mais pff, ça pourrait être juste beau et on va dire plaisant. Mais là en fait, on n'est même pas pris un peu dans le wagon. Genre, je suis sortie, franchement, j'ai oublié le film en 2 secondes quoi. C'est un peu tristoun. Niveau casting, c'est vraiment name dropping. T'as Scarlett Johansson, t'as Tom Hanks, t'as Tilda Swinton, t'as Margot Robbie, t'as Adrian Brody. Enfin, t'as 1000 acteurs, t'as quand même Damien Bonnard, qui est donc un acteur français, rappelons-le, qui fait une apparition d'à peu près 5 secondes et demie, donc faut vraiment être concentré pour le voir. Et en fait, c'est un peu ça pour tout le monde. Tu te demandes un peu quel est l'intérêt d'avoir autant d'acteurs super bons pour jouer des rôles de 30 secondes. Après, c'est drôle, et je pense que pour eux, c'est des films sympas à faire. Mais quand on voit tous les noms sur l'affiche, on dirait vraiment un Avengers, quoi. C'est un sacré délire. Je mets 3 étoiles, quoi. Mais même pas. Pff. Si, je vais mettre 3 étoiles, quand même, parce que c'est très beau. Ça pourrait faire un film muet avec juste de la musique. Pareil, je vais mettre 2,8. Allez, soyons fous.
Moi, j'ai vu le film Sick of Myself, qui est un film norvégien d'un réalisateur qui s'appelle Christopher Borgli et que je connais pas. C'est l'histoire d'un couple de trentenaires norvégiens. Ils s'appellent Signe et Thomas. Elle, elle est serveuse et elle s'en fout un peu de son taf. Lui, c'est un artiste, designer. Il travaille surtout sur le mobilier et il commence à percer. Et elle, elle est jalouse de ça. Du coup, elle veut trouver un moyen d'être intéressante et de devenir un peu le centre du monde, quoi. Et finalement, elle trouve un médicament qui, à haute dose, a pour effet secondaire de faire des trucs chelous sur la peau et notamment sur le visage. Et la mission est réussie parce qu'elle est défigurée. L'histoire, c'est comment ça va évoluer jusqu'au drame. Très vite, tu te rends compte que c'est quand même des gros connards, en fait, les deux. Ils se parlent mal, ils se dévalorisent. Lui, quand il est trop content de faire une expo, elle lui dit « Ouais, mais c'est pas dans la salle officielle, c'est dans la salle à côté », donc elle fait que le rabaisser. Lui, comme il commence à percer, il brille un peu, donc il y a des soirées qui le met en valeur. Mais elle, elle fait tout pour lui gâcher son moment, quoi. Pour elle, être au centre de l'attention et lui niquer sa soirée. Donc, pas sympa non plus. Mais visiblement, ils s'aiment quand même. Parce que quand il y a des gens, genre des amis à eux, miracle qu'ils aient des amis d'ailleurs, je sais pas comment c'est possible, mais bon, à un moment, ils ont des amis quand même. Quand ses amis finissent par leur dire qu'ils sont relous et juste on arrête de parler que de vous et vous êtes chiants, ils se défendent quand même. Donc j'en déduis qu'ils s'aiment. Mais bon, c'est quand même une relation super chelou. Elle se prend quand même des tirs dans la tronche. À un moment, il y a une critique d'art qui lui dit « Ah alors, du coup, vous êtes la sœur de Thomas ?» Elle dit « Ben non, je suis sa meuf. » Et elle répond « Ah bah c'est marrant parce qu'il parle jamais de vous. » Voilà, donc là, t'as un peu le seum quand même, quoi. Après, elle cherche, hein, mais bon, elle ramasse quand même, la pauvre. Et lui, c'est un escroc, mytho et klepto, quoi. Donc c'est vraiment le triptyque gagnant, vraiment, sortez avec ce gars, il a l'air super génial. Bref, ils sont dans un couple complètement toxique, malsain, il y a des red flags partout. Mais d'un côté, moi, je trouve qu'ils se sont bien trouvés parce qu'ils sont aussi dérangés l'un que l'autre. La question qu'on peut se poser, c'est qui est le plus détestable des deux. Et franchement, c'est pas facile. Si vous avez des avis, n'hésitez pas, parce que j'ai pas encore tranché sur la question. La force du film Sick of Myself, c'est que c'est quand même très gênant. Genre vraiment, les personnages sont gênants. Enfin, arrêtez de faire ça, agissez normalement. Mais d'un côté, malgré ça, c'est original, c'est beau. Voilà, c'est réussi. L'autre gros plus, c'est la mode. Tous les personnages s'habillent vraiment bien. Et aussi, c'est un film qui m'a fait penser à Sans Filtre. Et bien parce que ce sont deux films scandinaves. Mais en fait, dans l'esthétisme, je trouve que ça ressemble quand même beaucoup. Notamment la scène d'entrée, qui est une scène au resto, comme dans Sans Filtre, avec le couple qui s'engueule. Et l'autre similitude, ça par contre c'est chiant, il y a encore une scène de vomi quoi. Mais aussi comme dans Babylone il y a pas longtemps, enfin, je comprends pas pourquoi ils mettent du vomi dans les films, c'est nul quoi. J'aimerais bien qu'en 2023 on arrête avec le vomi ça suffit quoi. Mis à part cet épisode du vomi, j'ai quand même beaucoup aimé le film. J'ai trouvé que c'était beau, original, audacieux. Et en plus, c'est vrai que tu ressors du film en te disant que t'es super sain d'esprit. Toujours ça de prix, quoi, finalement. Mais forcément, j'enlève un point pour le vomi. Donc, bah, ça fait 4 sur 5.
Donc je suis allé voir Indiana Jones et le cadran de la destinée. Comme à chaque Indiana Jones, sans surprise, c'est l'histoire d'Indiana Jones, qui est toujours un prof d'archéologie et toujours un sacré aventurier, quoi. Le film commence par un flashback. Peu de surprise là encore, puisqu'on se retrouve encore avec Indiana Jones chez les nazis, un peu comme d'habitude. Mais il y a un truc assez dingue, c'est qu'il faut quand même pas oublier que le monsieur a 80 ans, donc pour rendre le truc crédible, ils ont rajeuni sa tête avec des effets spéciaux. Franchement, c'est pas mal fait. Il est même plutôt très beau quand même, on va pas se mentir. On le retrouve dans un train de nazis, en train de se cacher des nazis tout en battant des nazis, enfin beaucoup de nazis dans l'histoire. En gros, il est à la recherche d'un artefact qui a été volé par les nazis. En fait, il découvre un cadran magique. Il veut le voler, mais là, il y a le méchant nazi qui est dans l'histoire. Et comme à chaque fois qu'il y a un méchant depuis maintenant 2006, il est interprété par Mads Mikkelsen. Alors on adore les films où c'est la bagarre contre les nazis, donc on adore Indiana Jones, sachant qu'ils l'ont remis au coup du jour, c'est-à-dire que les nazis finissent par être aidés par des rednecks américains à moustache. On n'a pas peur de se fâcher avec l'Amérique de Trump dans ce film, j'ai l'impression. Voilà, donc ça c'est la première partie. Retour dans le présent. Et là, disons que la transition est rude hein, pour ce bon vieux Indiana Jones parce qu'on le retrouve à 80 ans, affalé sur son canapé en slip, un bon dimanche post-cuite. Mais vraiment, il est vieux, quoi. Le pitch de l'histoire, c'est que il a la fille de son pote qui veut récupérer le cadran et donc ça part en course-poursuite dans tous les sens. On va dans des grottes avec des pièges, avec des insectes bizarres. On fait de la plongée sous-marine vraiment pas dans les bonnes conditions de sécurité. Enfin, c'est un très bon Indiana Jones. La personne qui joue la fille du pote d'Indiana Jones, c'est Phoebe Waller-Bridge, qu'on aime beaucoup de manière générale. Pour une fois, il y a un vrai rôle pour une femme, quoi. Et ce qui est chouette, c'est qu'au début, c'est pas trop une gentille, quoi. Tu comprends que c'est une grosse arnaqueuse. Le seul truc qui l'intéresse, c'est vraiment la thune, la thune, la thune et encore la thune, quoi. Elle récupère des artefacts d'archéologie pour les vendre, pas pour les mettre au musée comme Indiana Jones. Ah si, il y a une scène un peu intéressante dans le film. C'est qu'à un moment, elle va faire... Ils vont tous faire de la plongée tous ensemble avec Antonio Banderas. Alors, pourquoi Antonio Banderas est là, on n'a pas compris, surtout qu'il reste 5 minutes dans le film. C'est un peu le rendez-vous des anciens beaux entre Harrison Ford et Antonio Banderas. On sent qu'ils ont pris un sacré coup de pelle. Il y a une scène évidemment incroyable. Il y a une course-poursuite à un moment dans New York avec Indiana Jones sur un cheval dans les tunnels du métro, poursuivi par le métro. Visiblement, ça va beaucoup plus vite que la ligne 13. Après, on se doute bien que c'est pas Papy qui a fait les cascades lui-même quand même dans ce film parce que vu comment il marche dans les scènes où c'est pas des cascades, il est pas capable de faire grand-chose. Pour ce film, Indiana Jones et le cadran de la destinée, je vais mettre la note de 4 étoiles parce que j'ai vraiment passé un bon moment. C'est vraiment un bon film d'action avec tous les ingrédients qu'on aime dans Indiana Jones, c'est-à-dire l'aventure, les cascades, les insectes dégueux dans les grottes et surtout les serpents que déteste Indiana Jones. Et voilà, si vous aimez les films avec des voyages dans le temps, allez-y. Attends, je regarde si j'ai noté des trucs parce que j'ai quand même pris des notes, hein, comme un bon vieux pépé qui se respecte.